Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire réussir son mariage avec Dieu? C'est très important. On va continuer sur notre lancée. On va essayer de garder le même rythme. Et tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, tout à l'heure, on a pris l'entrée. Là maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Ce sujet est un sujet qui est très important et très complexe. C'est un sujet qu'on n'enseigne pas comme ça. C'est un sujet, il faut savoir se poser, réfléchir, étudier et prendre le temps d'entendre la voix de Dieu à ce sujet. C'est un sujet qui est tellement important pour ta vie que Dieu veut que tu réussisses ton mariage. Dieu veut que tu réussisses ton mariage. Est-ce que tu le sais? Tu le savais? Pour ceux qui étaient là ce matin, ils comprennent maintenant pourquoi Dieu veut que, même un gâteau qui doit tomber, Dieu ne veut pas que le gâteau tombe. Parce que tout simplement, Dieu est dans les détails. Vous remarquerez quand on étudie la personne de Dieu qu'il est beaucoup dans les détails. Il est beaucoup dans les détails. Vous n'avez pas remarqué quand il donne la description de la construction du tabernacle à Moïse, il donnait des détails bien précis. Le poteau, tu le mets comme ça. Et après, il dit à Moïse, assure-toi de faire exactement la même chose que tu as vu au ciel quand je t'ai montré ça. Il a dit, assure-toi. Parce que le moindre défaut peut poser un souci. Amen. Et Dieu est dans les détails, même en ce qui concerne notre foyer, notre vie. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de... On a fait un peu une sorte d'introduction. Là, on va essayer de rentrer davantage en profondeur sur la signification du mariage. D'un point de vue global, on a un peu compris ce que c'était que le mariage. Mais c'est bien plus que l'union de deux personnes. C'est bien plus que l'union de deux personnes qui vont devant la mairie, devant les parents, ou même devant le pasteur. Il y a beaucoup de gens qui vont devant le pasteur se marier, mais ils ne savent pas du tout l'acte qu'ils sont en train de poser. Amen. Et aujourd'hui, et là cet après-midi, on va essayer d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? On va reprendre nos Bibles dans Genèse 1, 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Là, on va discuter de comprendre la signification et le but de l'alliance dans le mariage. Dans ce que je viens de dire, il y a un mot qui est très important. C'est le mot alliance. C'est le mot alliance. L'alliance, pour moi, c'est le sujet le plus important de la Bible. Et tout à l'heure, je vais rentrer en profondeur là-dessus. Mais s'il y a bien un sujet qu'on doit commencer à étudier quand on veut connaître Dieu, quand on veut connaître comment il pense, comment il réfléchit, il faut comprendre l'alliance. Dieu ne travaille pas en dehors de l'alliance. Jamais. Dieu ne travaille pas en dehors de l'alliance. Et quelqu'un qui ne comprend pas l'alliance et qui veut marcher avec Dieu, il risque d'avoir des problèmes. Il risque d'avoir de grosses surprises. Et très souvent, il y a des situations dans ta vie où tu te demandes pourquoi Dieu n'est pas intervenu. C'est parce que tout simplement, tu as agi en dehors de l'alliance. Très souvent, c'est ça. Parce que Dieu est lié par son alliance à nous. L'alliance qu'il a faite avec Christ. Dieu a fait une alliance avec Adam au jardin d'Éden. Dieu a fait une alliance avec Noé. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a fait une alliance avec David. Et Dieu a fait une alliance avec Christ, Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes en alliance avec Christ. Et quand on veut comprendre la signification du mariage, on se doit de comprendre l'alliance. Genèse 1, 26. On l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, on a dit que la personne qui a institué le mariage, c'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes. La grosse erreur que tu pourrais faire en ce qui concerne le mariage, c'est d'aller demander conseil à quelqu'un d'autre que Dieu. C'est d'aller chercher la vérité auprès de quelqu'un d'autre qu'auprès de la Bible. C'est la pire chose. Quand tu as un problème important avec ton conjoint, que ce soit dans le cadre des fiançailles ou bien dans le cadre du mariage, la solution se trouve toujours dans la Bible, en ce qui concerne le mariage. Parce que la Bible traite du mariage. Et la Bible est très simple. C'est nous qui compliquons tout en général. La Bible donne des solutions pratiques sur le mariage. Et particulièrement quand on a des difficultés, quand on a des conflits. C'est Dieu qui institue le mariage. Ce n'est pas le gouvernement. D'ailleurs, si pour les gens qui pensent que c'est l'homme qui a institué le mariage, il suffit juste de tourner vos regards sur la France pour vous rendre compte à quel point c'est devenu un désordre. Là-bas, pas possible. Aujourd'hui, en France, les gens font des sittings, marchent dans les rues à cause du sujet du mariage. Je me suis posé une question. Je me suis demandé pourquoi le président français actuel, lorsqu'il arrive au pouvoir, la première loi qu'il veut faire passer, c'est la loi sur le mariage. Ah ! Vous n'avez pas remarqué ça ? Dès qu'il est arrivé au pouvoir, la première loi qu'il s'est évertué à faire passer et qui a causé des remous, c'était la loi sur le mariage homosexuel. Il y a un vrai souci là. Malheureusement pour ce pays, ils ont validé cette loi, ils l'ont inscrite dans leur constitution et ils sont même allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à changer la définition du mot « parent ». Dans leur constitution était écrit « parent » veut dire l'union et l'association d'un homme et d'une femme ayant une progéniture ou des progénitures des enfants. Ils sont allés, ils ont rayé ça, ils ont dit « parent » veut dire l'union et l'association d'un homme et d'une femme ou d'un homme ou d'une femme et d'une femme. Ils ont inscrit ça dans leur constitution. Ils viennent d'ouvrir quelque chose sur leur pays. C'est juste ce qu'ils viennent de faire. Ne vous étonnez pas si demain dans ce pays vous entendez des choses très graves. Et ils essaient encore d'aller plus loin. Ils veulent même enseigner à l'école aux enfants la possibilité pour l'enfant de choisir son sexe. Ah! Aujourd'hui en France, c'est la réalité dont je suis en train de vous parler. Ils sont en train de faire passer ça. C'est-à-dire un enfant aujourd'hui, on estime aujourd'hui que quand il vient au monde, il a le droit de dire « je ne suis pas un garçon » si c'est un garçon. Et il a le droit de choisir de devenir une femme. C'est la loi qu'ils sont en train de faire. Je vous parle sérieusement. Hein. Vous voyez un peu où on est en train d'aller là. Et il y a des gens qui se sont levés et qui ont créé un mouvement mariage pour tous. Et puis ils ont commencé à marcher dans les rues. Non. Là, je sais comment je vais pas à l'église. Ces choses de la Bible et de l'église, ce n'est pas trop mon truc. Mais il y a une chose est sûre. Dans ma conviction intérieure en tant qu'être humain, je suis sûr que vos histoires là, c'est pas bon. Ah oui, il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit non. Là, vous êtes en train de nous emmener dans quelque chose qui n'est vraiment pas bon pour nous. Et il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour ça. Donc c'est Dieu qui a institué le mariage. Et parce que tout simplement, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons ne croit plus en Dieu, eh bien le monde est en train de s'égarer en ce qui concerne le mariage. Amen. Le mariage a été institué pour le bonheur de l'homme. Ça, c'est la première chose. Et le mariage a été institué pour la domination. Pour que l'homme puisse dominer. Si Dieu a suscité Ève à côté de Adam, c'était pour l'aider à accomplir son mandat de domination. Ça encore, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Donc le mariage n'est pas une institution fondée par les hommes. Toute famille qui reste soudée dans le mariage et qui marche dans le plan de Dieu pour sa vie est sûre de jouir de la grâce de Dieu et de la domination dans tous les secteurs de leur vie. Toute famille qui reste unie, consacré dans l'alliance avec Christ sur la base de ses principes, cette famille ne peut que prospérer. Dieu ne peut que bénir cette famille-là. Et le diable ne peut pas toucher cette famille. Sauf si les concernés font des erreurs qui peuvent leur coûter cher. Donc réussir son mariage avec Dieu, non seulement c'est possible, mais il faut au préalable que les époux comprennent la véritable signification du mariage. Est-ce qu'on peut dire avec moi le mariage?
Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la société, la plupart des gens, et même dans l'église, les gens ne savent pas ce que c'est que le mariage. Les gens, ils en parlent comme ça. Mariage, c'est être avec un copain, une copine, et puis on se fiancie, on présente les parents, et puis on fait le mariage à la coutume, on donne les cadeaux, etc., etc. Et puis c'est fini, on est marié. Voilà. Mon âme a pris le temps spirituellement de comprendre ce qui venait de se passer dans la vie des deux personnes. C'est pour cela que les deux personnes, quand elles arrivent devant l'autel et qu'elles sont en train d'échanger les vœux, là, ouais, le moment préféré des femmes. Et puis le gars commence à parler. Hein? Bon, chérie, aujourd'hui, je m'engage fidèlement, on aime dire ça, devant Dieu, devant les anges et devant les hommes. On aime dire ces choses-là, mais tu es sûr que tu es en train de t'engager devant Dieu, devant les hommes et devant les anges. Parce que lorsque l'on voit les problèmes qui arrivent après, tu as oublié ton engagement devant Dieu, devant les anges et devant les hommes. Hein? Il faut que les époux comprennent cela. Et pour comprendre, tout simplement pour comprendre la signification du mariage, il faut retourner à la parole de Dieu, il faut retourner à l'essentiel, il faut retourner aux bases, il faut retourner dans le manuel d'utilisation du mariage. Amen. C'est très important. Jésus-Christ est celui qui fait toujours des miracles. Ce matin, on a terminé par la petite histoire de Jésus à Cana, où il fit son premier miracle. Jésus-Christ n'a pas fait son premier miracle dans le mariage pour rien. Pour la simple et bonne raison que Satan est tellement en haine contre le mariage et qu'il a décidé coûte que coûte de détruire les mariages. Jésus-Christ est venu non seulement pour détruire les œuvres du diable, mais pour lui faire comprendre que tout comme toi, tu as détruit le premier mariage que Dieu a célébré, parce que c'était ta priorité, je vais te montrer que moi aussi, ma priorité, c'est le mariage. Et par là, je vais faire mon premier miracle. Il y a 3 jours de cela, j'étais en train de regarder la télévision, et puis je regardais un prédicateur très connu aux États-Unis, et ce prédicateur disait qu'un jour, il rentrait d'une grande croisade et il rentre dans sa chambre. Et quand il arrive dans sa chambre, il trouve Satan est assis dans sa chambre. Satan est là assis et il commence à discuter avec Satan. Et Satan lui dit, il résume ça ainsi. Satan lui dit, tu sais, je vais vaincre Jésus. Et lui, il répond, il dit, mais pourquoi tu dis tu vas vaincre Jésus? Tu es déjà vaincu. Parce que tu as l'impression de croire que tu es encore dans un combat. Il n'y a pas de combat. Tu penses que Dieu a le temps de combattre avec sa créature? Il dit, tu es déjà vaincu. Colossiens nous dit qu'il les a dépouillés. Il les a dépouillés de toute leur puissance. Quand tu rentres dans Colossiens et que tu cherches la signification grecque du mot qu'on a traduit en français dépouillé, c'est un mot qu'on utilisait à l'époque des Grecs pour les gladiateurs. Tu vois les gladiateurs, les gens quand ils se battaient dans l'arène devant César, et quand le vainqueur tenait son ennemi entre les mains et était prêt à le tuer, avant de le tuer, vous savez ce qu'il faisait? Il l'attachait à son char derrière. Et puis il faisait le tour de l'arène en le traînant par terre. C'était pour l'humilier, mais... C'était pour l'humilier. Et c'était une humiliation sans précédent. Si la personne sortait de là vivante, elle se serait même suicidée elle-même. Tellement c'était grave comme humiliation. Et quand la Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé Satan et toute sa cohorte, il les a pris et il les a traînés avec son char divin dans toute la reine de l'univers, devant toute la création de Dieu, en disant, celui-là, sachez qu'il est vaincu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Moi, je vous dis, j'ai reçu un manteau pour ça, pour dire ça. Tu es vaincu. Il ne faut pas avoir peur. Tu es vaincu. Le diable voudra utiliser la peur que tu cultives dans ton cœur pour t'impressionner. Toujours. Ici, dans notre pays, on parle de beaucoup de choses. Les sorciers, les alliances qui ont été faites, les fétiches. Il y a tel oncle dans ma famille qui fait ceci et qui fait cela. Ils sont vaincus. Si tu es en Christ, ancré en Christ, et si tout ton foyer est en Christ, personne ne peut toucher à ton foyer. Aucun sorcier, et d'ailleurs, laisse-moi te dire pour la bonne nouvelle que les sorciers, c'est la classe la plus basse dans le royaume des ténèbres. C'est la plus basse. Parce que Éphésiens 6 nous dit, ce n'est point contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les dominations. Mais est-ce qu'on cite les sorciers dedans? vraiment. Paul dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Donc on doit lutter contre ces principautés qui sont encore là et qui font du mal à la terre. Mais les sorciers, on ne les cite pas. Si Paul ne les cite pas, c'est que eux vraiment, mais... Ah. Hein? Une fois, je lui disais que si ton enfant, tout le temps, rentre à la maison, quand tu lui donnes le goûter en allant à l'école, et puis quand il rentre, il est toujours en train de pleurer, « Maman, quelqu'un m'a volé mon goûter. » Mais reprends ton goûter. Pourquoi on te le prend? Mais maman, il me tape. Il me prend mon goûter, il me tape. Et puis, jour après jour, l'enfant vient toujours en pleurnichant. Tu dis, mais c'est pas possible, je vais aller voir les parents de cet enfant qui fatigue mon enfant. Et puis, quand tu arrives à l'école, ton enfant, il a 16 ans. Et quand tu arrives à l'école, tu arrives, montre-moi l'enfant qui te fait la misère comme ça. Je vais lui régler son compte et je vais voir ses parents. Et puis, quand tu demandes à moi, c'est lui. Et puis, quand tu regardes, c'est un petit enfant de 3 ans, 4 ans. Qui tu tapes entre les deux? Tu tapes qui? Tu tapes ton enfant? Mais c'est lui qui te fait... Oh, mais... C'est pareil. Quand tu vas devant Dieu, tu dis, oh Seigneur, quelqu'un, il fait du mal à ma famille. Seigneur, c'est quelqu'un, on m'envoie les fusils nocturnes. Hein? On m'a lié, etc. Dieu dit, ah, il me fatigue. Exerce ton autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a trois fausses raisons que les gens ont, que les gens mettent en avant pour se marier, avant de rentrer dans la signification rapidement. La première fausse raison pour laquelle les gens veulent se marier, c'est que les gens veulent se marier, beaucoup de gens veulent se marier parce qu'ils se sentent seuls. Ça, c'est la première raison. Beaucoup de gens veulent se marier parce qu'ils se sentent seuls. On ne se marie pas parce qu'on est seul. Oui, mais je suis seul. Je vis une solitude et je crois que c'est le besoin que je dois combler. La solitude n'est pas un besoin à combler. La solitude est une maladie. Donc, il faut que tu guérisses de ta solitude. Je veux me marier parce que je suis seul, pasteur. Mais non, il ne faut pas te marier parce que tu es seul. Parce que si tu te maries parce que tu te sens seul, tu vas te retrouver dans le mariage toujours seul. Parce que tu ne seras pas guéri de ta solitude. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont mariés, mais ils se sentent toujours seuls? Oui? Ils se sentent toujours seuls. Et il y a une différence entre la solitude et le célibat. Est-ce qu'on peut dire avec moi le célibat? Être célibataire, ce n'est pas une maladie. Je tiens à clarifier ça. Être célibataire, ce n'est pas une maladie. Être célibataire, c'est juste un état civil. C'est juste un état civil. Celui qui est célibataire est celui qui est à l'école de l'intimité avec le Saint-Esprit en attendant son mariage. Est-ce qu'on me suit? Le célibat n'est pas non seulement une maladie, mais le célibat n'est pas non plus une malédiction. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre aujourd'hui dans l'église, quand tu les écoutes, ils te parlent du célibat comme si on dirait qu'ils sont maudits. Oh, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis seul, vraiment, comment je vais faire? Hein? Je vais finir, j'ai déjà 35 ans, je ne me suis toujours pas marié. Oh. Et alors? C'est justement parce que tu ressens ça et que tu parles comme ça que Dieu ne t'a toujours pas envoyé Ève. Et il n'a même pas pris la peine de t'envoyer les animaux. Parce que si tu envoies les animaux, à cause de ta solitude, tu risques d'aller épouser un lion. Mais oui. Parce que s'il fait cette erreur-là, d'ailleurs, si tu te sens seul, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Dieu va t'envoyer les animaux. C'est pour pouvoir guérir ta solitude. Quand on est seul, eh bien, on se met avec des gens. Et puis on passe du temps avec des gens. Les gens qui sont seuls, qui sont célibataires en général, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sortent le soir, ils sont avec des amis, ils ne restent pas seuls à la maison. Mais toi, tu te sens seul et tu restes seul à la maison. D'ailleurs, j'ai envie de dire un truc. Les chrétiens, sortez un peu. Ah, vraiment, sortez un peu. Ce n'est pas que l'église. Sortez un peu. Le dimanche, on est à l'église. Le mardi soir, on est à la cellule de maison. Le mercredi, on est au culte encore de l'église. Le jeudi, on est à la prière. Le vendredi, veillez. Le samedi, courir. Mais ta vie, elle est où? Tu passes combien de temps avec la famille? Combien de temps tu passes pour toi? Te détendre, aller un peu te balader, faire des courses, aller regarder un film. C'est pas mauvais d'aller regarder un film, hein, tu sais. Ça dépend du film que tu vas voir. Il y a des films qui sont très intéressants à aller voir, même si ce n'est pas des films qui parlent de Dieu. Ça peut toujours t'édifier un peu. Ou bien si tu ne veux pas aller voir des films parce que tu es tellement spirituel que tu ne veux pas aller voir les films, eh ben, tu sors, tu vas avec des amis, tu vas un peu en ville, tu sors, tu restes un peu jusqu'à 20h, 21h, vous prenez un verre avec des amis, vous rigolez. Hein? Ça fait du bien de rire, de rigoler, de sortir un peu. C'est pour ça que les chrétiens sont trop frustrés. Dès qu'ils arrivent à l'église le matin, « Bonjour mon frère. »«
Bonjour.
Oh. » C'est quoi? Spirituel. Dès qu'il arrive, il s'assoit. Il crie. Bonjour mon frère, tu vas bien?
Ça va, ça va.
Oh. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Ah, vraiment. Soyez détendus. Soyez détendus. Même le pasteur, homme de Dieu, il arrive à l'église. Sérieux. Sois détendu. Tu es un homme de Dieu. Sérieux, quand il s'assoit, sois détendu. C'est pas ça qui va faire descendre l'onction, hein, tu sais. Sois détendu. Vraiment. Hein? Une fois, je disais ici, l'onction, c'est pas ce genre de choses. L'onction, c'est pas crier. Parce qu'il y a des gens, ils vont crier, « Oh, non, mais Jésus !» J'ai dit, ah, « Tu me casses les oreilles, tu vois. » Une fois, je suis parti aux États-Unis dans une église. Je n'étais pas chrétien encore. Et donc, je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu. Et puis, je rentre dans une église. Je me dis, bon, peut-être que là, je vais trouver le salut pour mon âme. Hein? Je m'assois et puis, je ne suis pas resté plus de 30 minutes. Parce qu'ils avaient monté le volume à fond. Et le pasteur criait dans le micro. Et puis, je demande à mon voisin, « Why is screaming like that? » Pourquoi il crie comme ça? On l'entend, il est à côté. C'était une petite église, hein? Mais il crie. Pour lui, c'est l'onction. Bon, chacun son onction, hein, mais voilà, gloire à Dieu. Bon, il ne faut pas que je m'étende là-dessus, sinon vraiment, il faut qu'on avance. Donc, le célibat n'est pas une malédiction, le célibat n'est qu'un état civil. Être célibataire ne décrit absolument pas ta condition émotionnelle ou spirituelle, mais juste ton état civil. Donc, il n'y a aucun mal à rester célibataire, même si tu as dépassé 25 ans, parce que peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Parce que pour que Dieu puisse t'envoyer ton aide semblable, pour que Dieu puisse t'envoyer ta conjointe, eh bien, tout simplement, il faut qu'il estime que tu es prêt. Il faut que tu estimes que tu es prêt. Donc, ne pense jamais résoudre ton problème de solitude en te mariant. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Il y a quatre choses importantes pour un homme avant le mariage. Quatre choses importantes. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a quatre que je voudrais relever. Avant le mariage, tout jeune, les jeunes, il faut bien écouter. Il y a quelque chose de très important. La première, c'est que, avant de se marier, toute personne, tout enfant de Dieu doit avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. C'est très important. Si tu rentres dans le mariage et que tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, ça va être difficile. La deuxième chose, c'est qu'il doit se connaître lui-même. Ou elle doit se connaître elle-même. C'est très important. La troisième chose, c'est qu'il doit avoir une vision pour sa vie et pour son futur foyer. Tu n'épouses jamais un homme, les femmes. Ne va jamais t'hasarder à te mettre avec un homme qui ne sait pas où il va. La Bible dit que sans révélation, sans vision, le peuple périt. Si tu te mets avec un homme qui n'a pas de vision pour sa vie et pour son foyer, il va vous emmener je ne sais pas où. Je t'assure, la vision c'est très important. Un jour, je vais prendre le temps d'en parler longuement. Je t'assure, si tu veux un jour, tu montes dans l'avion et que, assis dans l'avion, prêt à décoller, tu entends la voix du commandant de bord qui dit, « Mesdames et messieurs, bonjour, je suis votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Airtel. Nous allons décoller dans quelques instants. Nous allons voler, mais nous ne savons pas où nous allons. » Qu'est-ce que tu fais? Tu descends. Tu descends. Oui, il faut descendre vite. Ne t'aventure pas à monter dans l'avion qu'on appelle mariage avec un pilote qu'on appelle chef de la famille et il ne sait pas où il va. Il va t'emmener dans... Il va vous cracher. C'est quoi ta vision pour les enfants? Qu'est-ce que tu vois pour notre maison? Comment tu te vois plus tard? Comment tu vois tes finances? Est-ce que tu te vois toujours comme ça, sans travail, 100 000 francs par mois? Ou bien est-ce que tu te vois beaucoup plus loin? Rêve un peu. Sois ambitieux pour Dieu, pas pour toi-même. Rêve un peu. Hein? Mon chéri, on va où?
Dans deux ans, dans trois ans, on est où? Moi et ma femme, on s'est fixé un objectif. On a dit, avant 40 ans, il faut qu'on ait construit notre maison. C'est un bel objectif. Ça va pas être évident, je sais. Mais c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Gloire à Dieu. Hein? Donc, ne monte jamais dans le mariage sans être sûr que cet homme-là, il va quelque part. Et si tu vois, tu constates que l'homme avec qui tu es ne sait pas encore où il va, professionnellement, il ne sait pas trouver. Financièrement, sans commentaire. Au niveau des enfants, il te dit, oh, je ne sais pas trop. On va d'abord attendre que, etc., etc. Un homme comme ça, laisse-le d'abord. Il faut qu'il aille d'abord à l'école du seul à seul avec le Saint-Esprit pour se trouver lui-même. Il doit avoir une vision. Et enfin, le quatrième point, il doit, si possible, connaître déjà son ministère. Amen. Parce que tout homme a un ministère. Toute personne a un ministère. Et très souvent, en tant qu'épouse, tu vas découvrir. Parce qu'il y a beaucoup d'épouses qui disent, « Oui, mon époux, il a son ministère. Moi, j'ai mon ministère. » Non. Vous n'avez qu'un ministère. Dieu ne peut pas donner deux visions dans la maison. En tant qu'épouse à côté de ton mari, tu ne peux qu'épouser le ministère que Dieu lui a donné. Et tu vas te rendre compte en tant qu'épouse que lorsque tu épouses le ministère de ton mari, non seulement tu vas te découvrir toi-même, mais tu vas être épanoui. Ah oui? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc si tu te sens seul, la réponse à la solitude, Dieu la donne. Genèse 2, verset 18, on l'a lu tout à l'heure. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que ce gars-là commence à être malade de la solitude. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel pour lui tenir compagnie. Ni plus ni moins. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. La deuxième fausse raison pour laquelle les gens veulent se marier, c'est que beaucoup veulent se marier pour être bénis. C'est beaucoup de fausses doctrines qu'on enseigne dans les églises. Si tu te maries, tu seras béni. Non. Donc, l'état dans lequel je suis là, je suis maudit alors. Non. Si je me marie, ce n'est pas pour être béni, parce que je suis déjà béni. Si je me marie, ce n'est pas pour qu'elle me complète, je suis déjà complet. Et le mariage n'est pas une bénédiction. Je l'ai dit tout à l'heure, le mariage est simplement un moyen ou encore un instrument entre les mains de Dieu pour t'aider à avancer vers ta destinée. Lorsque tu t'associes avec ton conjoint, avec ton partenaire, vous devenez une seule chair, une même personne, un même cœur, un même corps, un même esprit et vous voyagez ensemble vers votre destinée. Et ce n'est pas parce que tu te maries que tu es béni. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur, pas la bénédiction. Il a trouvé le bonheur. Le bonheur, c'est ni plus ni moins cet épanouissement personnel. Ça, c'est la deuxième fausse raison. La troisième fausse raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se marier. Et ça, vraiment, bon. Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier parce qu'ils veulent assouvir un besoin sexuel, parce qu'ils ont peur de tomber avec leur fiancé. Oh ma chérie, faut qu'on se marie vite là. Pourquoi? Si on ne se marie pas vite, on va brûler. Si on ne se marie pas vite, on peut... Tiens, si tu te mets avec un gars qui ne sait pas se maintenir et se contrôler, tu es en danger.
Amen.
S'il faut attendre deux ans, on attend deux ans. Mais pourquoi attendre deux ans? C'est long toi aussi. Oh. On ne se marie pas parce qu'on veut assouvir un besoin sexuel. Parce que quand tu vas entrer dans le mariage, tu vas te rendre compte que le mariage ne se limite pas seulement au sexe. Il y a beaucoup d'autres choses dans le mariage. Les jeunes, ils se marient maintenant tôt, 18 ans, 19 ans, ils sont déjà mariés. Oh! Pourquoi vous mariez? Mais on nous a dit qu'il faut se marier parce que j'ai une copine, donc on ne peut pas attendre et tout. Ils sont encore immatures, ils ne connaissent pas, ils n'ont rien compris encore à la vie et puis ils sont déjà mariés. Et c'est pour cela que les trois quarts des mariages de moins de 25 ans finissent par des divorces. Moi, j'ai connu un jeune. Il s'est marié à l'âge de 24 ans. La fille avait 22 ans. Je vous assure, on a célébré leur mariage le samedi à l'église. Tout le monde était content. Si je vous dis que le lendemain, le dimanche, après le culte, je le cherche. J'ai dit, mais il est où? Ils m'ont dit qu'il serait là le dimanche après le mariage parce qu'il comptait partir en noce que le lundi. Et quand je l'appelle, on se voit. Vous savez ce qu'il me dit? Elle m'a demandé déjà le divorce. J'ai dit, mais
c'est quoi cette histoire là? Vous êtes marié hier, comment elle demande déjà le divorce? Mais elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. C'est véridique. Le dimanche, elle lui demande le divorce. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés le soir à la maison, après le mariage, et elle voulait, ils voulaient certainement faire leur noce, je ne sais pas moi. Et puis elle dit non, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Ça, c'est Satan, ça. Je ne sais pas à combien il était oisif pendant le mariage pour qu'il vienne, il s'infiltre, et puis il lui mette une pensée dans la tête pour qu'elle demande le divorce le dimanche. Et je vous assure, c'était un moment difficile pour ce garçon parce que je l'ai encadré. Je l'ai encadré pendant des mois et ça l'a détruit, le garçon. Il a eu du mal à se relever. Et si je vous dis qu'elle a demandé le divorce, le lundi, elle avait pris ses bagages et elle était partie. Hein? Elle était partie. Non seulement elle était partie de la maison, mais elle avait aussi dégagé de l'église parce qu'on lui aurait fait ça dur à l'église. Hein? Mais toi, tu n'es pas bien. On t'a marié hier à l'église, tu demandes le divorce. Mais il y a un problème, il faut t'asseoir. On va te parler parce que ça ne va pas. Non, ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Ah oui. Elle s'est rendue compte qu'elle avait épousé le mauvais animal. Et elle s'est dit, non, je sais que Dieu n'aime pas les divorces, mais vivre toute ma vie avec cette espèce-là, avec lui, je me rends compte que ce n'est pas l'homme de ma vie. Mais comment tu as fait pour venir jusqu'à l'hôtel? Comment tu as fait? Tu avais les yeux où? Et puis elle a fait la déclaration et tout devant tout le monde, c'était émouvant, hein, tout ça. Moi, j'avais envie de dire que ta femme-là, elle a un peu perdu la tête, hein, parce que... Donc, les trois raisons pour lesquelles... Ces trois raisons sont de fausses raisons évoquées par les gens. Le sexe est quelque chose de très important dans le mariage. Mais le sexe a été créé par Dieu pour une seule raison. La première, c'est pour procréer, pour faire des enfants. La deuxième, c'est pour s'épanouir. C'est pour que les époux s'épanouissent. Le sexe est un moyen qui permet aux époux de se rapprocher encore plus. Mais le sexe, Dieu ne joue pas avec quand il est pratiqué hors mariage. Parce que hors mariage, que ce soit clair pour tout le monde, malédiction. Faveur de Dieu enlevée. Parce que Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu ne joue pas avec le péché. Toute personne qui joue avec le sexe hors mariage, quand il est avec sa fiancée ou même avec sa concubine, il est en train d'ouvrir une porte où celui dont la nature est appelée péché vient avec tous ses bagages, il vient, il pose les valises à la maison. Son nom, c'est Satan. Quand tu vas épouser cette fille, tu vas te rendre compte que ton beau-père, Satan, est venu s'installer à la maison et il a emmené avec lui tous les cousins et les nièces, les esprits de séduction. Tout le monde vient à la maison s'installer chez toi. Esprit de colère, esprit d'impudicité, esprit de convoitise, esprit de sorcellerie, tout arrive à la maison. Esprit d'adultère, tout arrive à la maison. Parce que tout simplement, il y avait un souci déjà à la base. Est-ce qu'on me suit? Dieu veut et Dieu est d'accord avec le sexe. Je vais vous dire, il y a trois sujets dans l'église que les pasteurs n'osent jamais aborder, de peur de s'attirer des problèmes. Le premier sujet, c'est le pouvoir. Il y a très peu de pasteurs qui parlent de pouvoir. Le pouvoir, ça fascine tout le monde. Vous n'avez pas vu que tout le monde est passionné par la politique? La politique, c'est un vrai sujet. Mais on ne parle jamais de pouvoir dans l'Église. On parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de pouvoir. Adam, qu'est-ce qu'il a perdu en tout premier? Il a perdu le pouvoir. Qu'est-ce que Satan propose à Jésus et que Jésus-Christ dit, éloigne-toi de moi. Il dit, voici tous les royaumes, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. Le pouvoir, Jésus-Christ dit, éloigne-toi de moi. Le pouvoir. La deuxième chose que les gens n'aiment pas discuter dans l'église, c'est l'argent. L'argent. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'argent? Dès que tu parles d'argent, tu es catalogué de pasteurs qui parlent de la prospérité. Mais les gens, ils ont des problèmes d'argent. Les gens souffrent avec l'argent. Les gens n'ont pas d'argent. Oh, pasteur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église hier? Je n'avais pas l'argent du taxi. Quoi? Tu n'es pas venu à l'église parce que tu n'avais pas l'argent du taxi? Mais oui, je ne travaille pas, j'ai pas. Mais pourtant, tu as eu ton salaire là, il y a à peine une semaine, on t'a payé là. Oui, mais tout est déjà fini. J'ai un problème. C'est pour ça que le 13 ou le 14 juillet, on organise un atelier sur comment gérer efficacement ses finances. Comment gérer efficacement ses finances. C'est très important. Et la troisième chose que les gens ne veulent pas discuter dans l'église, c'est le sexe. Ah, le sexe, c'est... Un jour, je vais faire un message qui va s'appeler « Parlons sexe ». Tous les jeunes d'Akanda vont venir remplir la salle. Donc, c'est très important à savoir. On avance. Donc, ce qu'il faut absolument comprendre avant de s'engager avec quelqu'un dans le mariage, ce qu'il faut absolument comprendre après avoir passé l'étape du nommage, après avoir regardé autour de toi, après avoir pris le temps de te connaître avec toi-même, après avoir pris le temps de connaître Dieu, après avoir cultivé une intimité profonde avec Dieu, après avoir laissé le temps à Dieu de te guérir de tes blessures émotionnelles, après avoir laissé à Dieu le temps de travailler ton caractère, après avoir laissé le temps à Dieu de te former, de t'équiper et de te donner une vision pour ta vie. Là maintenant, tu es prêt à t'engager. Mais quand tu t'engages, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le mariage, c'est une alliance. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'alliance ? Le mariage est une alliance. Le mariage n'est pas une alliance de deux personnes avec Dieu. Le mariage, c'est une alliance de deux personnes unies par Dieu. Le mariage, je répète, n'est pas une alliance de deux personnes avec Dieu. Ce n'est pas parce que deux personnes se marient qu'elles font une alliance avec Dieu. Non ! Nous avons déjà fait une alliance avec Dieu en Christ. Cette alliance, c'est lorsque tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Là, tu es en alliance avec le Saint, avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Mais lorsque tu t'engages à épouser une personne, tu fais une alliance à vie, voire pour l'éternité avec cette personne. Est-ce qu'on me suit? Et cette alliance, elle ne se fait pas n'importe comment. Cette alliance, elle se fait devant trois autorités. Elle se fait premièrement devant l'autorité des parents. C'est la toute première autorité devant laquelle on doit aller se présenter, les parents. Parce que la fille de quelqu'un, elle a des parents. Elle a un père, elle a une mère, elle a quelqu'un qui l'a porté toute sa vie. Et tu dois faire cette démarche-là. Tout homme qui ne fait pas cette démarche-là est en danger sérieux. Parce que spirituellement, il y a une porte qui est encore ouverte dans sa maison. Parce que la bénédiction des parents est quelque chose de très important. Amen. Ensuite, il y a l'autorité civile qu'on appelle la mairie. Parce que l'autorité civile, j'insiste sur ça, pourquoi? Parce que la semaine dernière, avec mon épouse, on était en train de regarder sur une chaîne chrétienne un débat qui a duré 2 heures avec plusieurs pasteurs qui n'étaient pas d'accord sur ces points-là. Des pasteurs, hein. Il y en a un qui disait, on peut juste se marier à l'église, on n'a pas besoin de se marier à la mairie. Il y en a un autre qui disait, on peut juste se marier à la mairie, on n'a pas besoin de se marier à l'église parce que la mairie est une autorité reconnue par Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'aller devant le pasteur. Moi, j'ai des brebis dans mon église qui sont mariées à la mairie, mais elles ne sont pas mariées à l'église. Il y en a qui sont ensemble parce que les parents n'ont pas voulu qu'ils soient ensemble. Ils ont fait la forte tête et puis ils sont quand même partis se marier. Et puis, les pasteurs valident. Non, il y a trois autorités, les parents, la mairie et l'église. Dieu n'est que la cerise sur le gâteau. Dieu, il y a une chose qui va d'abord te demander, est-ce que tu es allé voir les parents de la fille en question? Est-ce que tu as donné la dot? Lorsqu'on regardait aussi ce débat, il y a un pasteur qui disait que la dot, c'était dans l'Ancien Testament, on peut ne plus la donner aujourd'hui. Donc, il y avait des divergences. Et je me rendais compte que, bah, dis donc, la compréhension du sujet du mariage, elle diverge. Hein? Non, quand on revient à la parole de Dieu, quand on regarde la parole de Dieu, la dot aussi est quelque chose de très important. Isaac a donné la dot, non? Tout ça, c'est biblique. Ce n'est pas une histoire d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament. Ce sont des lois divines. Les lois divines étaient là bien avant Moïse. Les lois divines étaient là bien avant. Donc ces trois autorités sont très importantes. Et cette alliance, Jésus-Christ dit, personne ne peut la briser. Seuls les époux ont le pouvoir de briser l'alliance du mariage qu'ils ont fait devant Dieu. Personne d'autre n'a ce pouvoir. Personne ne peut venir se mettre entre toi et ta femme et dire et faire en sorte que vous vous séparez. Le jour où vous vous séparez, c'est parce que toi, tu as pris la décision de te séparer. Quel que soit le problème que vous pouvez rencontrer dans le couple, quel que soit le problème, la tempête par laquelle vous passez à la maison, vous ne devez pas vous séparer. Parce que c'est l'objectif de l'autre. C'est l'objectif de Satan. Parce que si vous vous séparez, vous mettez fin à votre cheminement vers la domination. vers votre prospérité. Vous mettez fin à ça. Donc c'est très important de comprendre que, surtout les hommes, quand tu es vraiment en conflit conjugal avec ta femme, Jésus-Christ a dit, il n'y a que l'infidélité qui peut donner à l'un des conjoints de dire, maintenant on se sépare. Mais s'ils n'ont pas pris cette décision et qu'ils décident de rester ensemble, sache que tu ne dois jamais donner raison à l'ennemi. Parce que si l'ennemi, tu lui donnes raison, c'est ton ministère et toute ta vie que tu mets en danger. Et tu risques de ne pas atteindre ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Donc le mariage est une alliance, la relation entre un conjoint, entre deux personnes, entre deux partenaires qui sont unis par Dieu devant les autorités et devant les hommes. La Bible nous dit dans le psaume 25, au verset 14, regardez bien ce verset, il est très important. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître quoi? Son alliance. Dieu ne fait rien en dehors de l'alliance. Tout ce que vous pouvez demander à Dieu comme requête dans la prière ou autre pour votre couple, si ce n'est pas dans l'alliance du mariage, Dieu ne l'exaucera pas. Dieu est très simple. Que tu demandes de l'argent, que tu demandes une percée, que tu demandes un enfant, si c'est en dehors de l'alliance, Dieu n'exaucera pas cette prière. Si tu arrives à obtenir ce que tu demandes, ça n'en remet qu'à la miséricorde de Dieu. Ça ne dépend que de la miséricorde de Dieu. Mais quand tu es dans l'alliance, sache qu'aujourd'hui, avec l'alliance que nous avons avec Christ, il y a ce qu'on appelle des droits d'alliance. L'alliance, c'est la Bible. J'ai pour habitude de dire que la Bible, c'est la constitution du royaume des cieux. Dans la constitution d'un pays, il y a des droits et des obligations pour les citoyens, n'est-ce pas? Il y a des droits et des obligations. Et dans la constitution, tu as des droits. Et quand tu es en litige avec la justice, on te donne d'office quoi? Un avocat. Parce que tu as des droits. Et Christ est notre avocat. Et de même, dans l'alliance que nous avons avec Christ, quand nous nous tenons devant Dieu, Dieu dit, viens et plaidons. Invoque l'alliance que j'ai avec toi. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu au nom de Jésus-Christ qui est inscrit dans l'alliance et il ne te la donnera pas. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu s'est engagé dans son alliance. Et il y a beaucoup de droits dans l'alliance. Il y a beaucoup de droits et de promesses que Dieu a scellées par le sang de l'agneau en ce qui nous concerne. Je vous assure, le jour où on comprend ça. Il y a par exemple l'alliance de fécondité. Tu dois savoir que la stérilité, ce n'est pas de Dieu. Une femme qui est avec quelqu'un depuis des années, ils sont mariés et ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est un mensonge du diable. Tu te lèves dans la prière et dans le jeûne et tu dis, Dieu, je réclame. Il y a un temps où tu vas supplier Dieu. Mais il y a un temps où tu vas arrêter de supplier. Et tu vas dire, Seigneur, je réclame. Je réclame mon droit d'alliance. Et je bannis la stérilité de mon foyer. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je vous assure, ma femme et moi, on a eu notre premier enfant au bout de 4 ans de mariage. Pendant les 4 ans-là, mes parents, vraiment, c'était compliqué. C'était, mais toi aussi, tu attends quoi pour faire l'enfant? Tu attends quoi? L'enfant. Oh, ta femme est stérile. J'ai dit, ma femme n'est pas stérile. Arrêtez de dire que ma femme est stérile. Et moi non plus, je ne suis pas stérile. Hein? Non, mais il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Mais si, il y a un problème. Ça fait 4 ans. Non, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à changer mes prières. Le matin, quand je me levais, je ne suppliais plus Dieu. Je déclarais. Je pouvais passer une heure à déclarer. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ par la foi que ma fille, avant la fin de cette année, vient au monde. Je la paie à l'existence maintenant. Elle existe dans l'esprit, mais moi, chef de cette maison, je la paie maintenant à l'existence au nom de Jésus. Je déclare qu'avant la fin de cette année, j'entends des pleurs de bébés dans ma maison. Avant la fin de cette année, tu ne m'entendais pas prier comme ça au salon? Avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, je déclare que je vois un enfant rigoler dans cette maison. On lui avait même déjà donné le nom. Je l'appelle à l'existence au nom de Jésus. Je bannis la stérilité et je détruis tout mensonge du diable dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, c'est mon droit, je le réclame au nom de Jésus-Christ. Et je reste en paix, serein, parce que je sais que Dieu m'a entendu. Et c'est comme ça qu'il faut prier. Tu exerces ton autorité. Dis à quelqu'un, exerce ton autorité. Et Dieu ne travaille pas en dehors de l'alliance. Dieu ne travaille pas en dehors de l'alliance.
Et quand tu veux attirer la faveur de Dieu sur ton mariage, quand tu veux attirer la faveur de Dieu sur ton foyer, fais toutes choses dans le cadre de l'alliance. Suis le protocole, respecte les principes de Dieu et ton mariage sera béni. Je t'assure, il sera béni et tu prospéreras. Il y aura peut-être, oui, certes, parfois, il y aura peut-être des manques de connaissances et tu devras peut-être te former, etc., à acquérir de l'expérience. Oui, mais tu seras béni. Les gens te regardent et ton mariage est béni. Gloire à Dieu. Donc, le mariage est une alliance. Et parce que le mariage est une alliance, c'est un sujet sur lequel on doit accorder beaucoup d'importance. C'est un sujet qu'on doit étudier et que tout enfant de Dieu dans l'Église doit maîtriser. Tout enfant de Dieu qui ne maîtrise pas le sujet de l'alliance est quelqu'un qui ne connaît pas ses droits. C'est quelqu'un qui risque de se trouver devant l'ennemi et ne saura pas quel article de la Constitution invoquer. Il ne saura pas. Et puis, on va lui faire ça dur. Dieu ne s'engage pas dans une relation avec quelqu'un s'il n'y a pas d'alliance avec cette personne. Je vais rentrer en détail là-dessus. Dans la Bible, on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament, n'est-ce pas? Le mot « testament » ici, dans la Bible, que l'on traduit en français par « testament », dans l'Ancien Testament, c'est un mot hébreu que l'on prononce « diatheke ». Et dans le grec, c'est un mot que l'on prononce « brit », « b-r-i-t-h ». C'est ce qui veut dire que l'on traduit par « testament ». Mais les Anglais, ils ont mieux traduit, parce que les mêmes mots veulent dire aussi « alliance ». Et les Anglais, dans leur Bible, ont traduit « covenant », c'est-à-dire « Ancienne alliance et nouvelle alliance. Mais nous, on traduit par Ancien Testament et Nouveau Testament. Pourquoi la Bible nous parle d'alliance? Parce que tout simplement, Dieu est celui qui travaille avec les alliances. Et Dieu ne s'engage pas dans une relation avec un couple, avec un mariage, s'il n'y a pas une alliance. Lorsque des païens se marient, ils font bien. Ils ne font que respecter un principe qui est divin, le mariage. Mais une chose est sûre, il y a des bénédictions et des grâces qu'ils ne peuvent pas connaître. Parce qu'ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Vous n'avez jamais entendu des gens qui vous disent « Ouais, mais on est tous les enfants de Dieu. » On n'est pas tous les enfants de Dieu. Hein. On est tous des créatures de Dieu. On n'est pas tous les enfants de Dieu. Jean 8, 44, le débat le plus houleux que Jésus-Christ a eu avec les Juifs, Jésus-Christ dit « Vous faites les œuvres de votre Père. » Et puis ils disent « Qui est notre Père ? » ?»« Notre Père, c'est Abraham. » Ils disent « Votre Père, si c'était Abraham, vous m'aurez reconnu, car c'est de lui que je suis venu, etc. etc. » Alors, qui est notre Père ? Nous sommes les descendants de Moïse. Il dit « Votre Père, c'est celui que... » Comment dire ? Votre père, c'est le diable. C'est écrit, hein ? Jean 8, 44. Il dit, « Votre père, c'est le diable. » Ils sont là, ils disent, oh. Et c'est un jour d'aller voir quelqu'un, un non-croyant, puis tu dis, « Ton père, c'est le diable. » Tu vas voir comment il va réagir. Non, ne manque pas de sagesse, s'il te plaît. Va pas dire ça à un non-croyant, parce que tu risques d'attirer des gros ennuis. Hein ? Donc, Dieu ne s'engage pas dans une relation s'il n'y a pas d'alliance avec cette personne. Donc, quand deux personnes s'engagent dans le mariage, si elles sont non-croyantes, Dieu respecte. Mais ces personnes, si par exemple dans le couple, l'un des deux est stérile, ces personnes ne peuvent pas venir devant Dieu et puis dire, « oh Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, donne-nous un enfant. » Dieu dit, « Eux, c'est qui ?» Oui, mais nous sommes aussi des êtres humains, tu nous as aussi créés, etc. Oui, mais... J'ai arrêté une loi, c'est que toute personne qui veut me parler le fait qu'au travers de Jésus-Christ. C'est une loi que j'ai arrêtée dans tout l'univers. Donc maintenant, quand quelqu'un s'adresse avec moi, il dit au nom de Jésus. S'il ne dit pas au nom de Jésus, il dit au nom de quelqu'un d'autre, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter ça. Et pourtant, c'est la stricte vérité selon la parole de Dieu. On avance. Et c'est pour cela que Dieu, parce qu'il respecte l'alliance et parce qu'il tient à l'alliance et parce qu'il sait que le mariage que l'on fait avec quelqu'un est une alliance, Dieu déteste, voire hait quand quelqu'un brise l'alliance. Dieu ne supporte pas de voir des gens qui... C'est pour ça que Dieu déteste le divorce. C'est pour cela qu'avant de divorcer de quelqu'un, il faut bien réfléchir. Il y en a qui disent, c'est bon, Dieu va me pardonner et puis je veux repartir de zéro. Tu ne sais pas ce que tu fais en fait. Parce que tu viens de briser une alliance. Quand des gens se mettent ensemble, Dieu va d'abord observer leur attitude en ce qui concerne l'alliance. Si ces gens-là méprisent les choses de l'alliance, Dieu sait que ces gens-là, il ne peut pas aller loin avec eux. Dans le livre de Malachie, chapitre 2, au verset 16, il est écrit ceci. Car je hais quoi? La répudiation. La répudiation, c'est quoi? La répudiation, c'est lorsqu'un homme dit « Je ne veux plus de cette femme ». C'est lorsqu'un homme retourne voir la première autorité, les parents, et puis dit « Je ne veux plus, je vous ramène votre fille ». Dieu hait ça. Dieu déteste. Ce que Dieu dit, cette personne, tu t'es engagé à vie avec elle. Et là, tu es en train de répudier cette personne, tu es en train de briser l'alliance. Et ça, je ne le supporte pas. Mais heureusement que Dieu est miséricordieux. Car par sa grâce, il y a une vie après le divorce. Il y a des gens qui ont expérimenté le divorce, qui sont dans l'église et qui sont très sincères, qui ont eu des gros problèmes et qui ont divorcé. Mais Dieu est miséricordieux. Et si Dieu n'était pas miséricordieux, on souffrirait. Il y a des gens qui se rendent compte que oui, il y a eu des erreurs qu'ils ont faites, qui ont entraîné beaucoup de mal dans leur couple. Mais Dieu, si tu te confies en lui, si tu t'accroches à lui, si tu te demandes pardon, si tu te repens, si tu t'humilies et tu cherches ta face, je t'assure, il va te relever. Amen. Il va te relever par sa grâce au nom de Jésus-Christ. On va finir. Il y a un point sur lequel je voulais terminer, c'est que toute personne qui établit une alliance avec quelqu'un, lorsque deux personnes décident de se lier par le mariage devant les parents, devant le maire et devant Dieu, ces personnes doivent prendre en compte que quand on parle d'alliance, ça veut dire que on parle de mort. Est-ce que quelqu'un peut dire mort? L'alliance, regardez, je vais vous le montrer. Hébreux 9:16 nous dit, en effet, un testament ou encore une alliance brite n'a pas d'effet tant que son auteur est en vie. Il est valide seulement après la mort de celui-ci. Seulement après la mort de celui-ci. On parle de testament quand quelqu'un est sur le point de mourir. On parle de testament quand quelqu'un est sur le point de mourir. Et quand on parle de testament, on parle d'alliance. Dieu a fait une alliance avec nous et il y a quelqu'un qui est mort dans cette alliance, Jésus. Et quand tu te lies à quelqu'un dans le mariage, tu dois comprendre que l'engagement que tu es en train de faire avec cette personne, tu es en train de signer ton arrêt de mort. Ton arrêt de vie, je devrais plutôt dire. Là, c'est calme. Mais c'est très important parce qu'on ne parle pas d'alliance. La plupart des problèmes que l'on rencontre dans les couples, c'est parce que l'un des deux n'est pas mort. L'un des deux vit encore pour lui. Mariage, est-ce qu'on peut dire avec moi mariage? Le M de mariage, le premier M, c'est quoi? La mort à soi. Tu meurs. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. La Bible dit, la femme appartient à son mari et le mari appartient à sa femme. Tu ne t'appartiens plus. Il a droit sur toi. Si tu avais l'habitude de rentrer à 23h, elle a le droit maintenant d'appeler et te dire à 21h, tu rentres. Je fais ce que je veux. Non, tu m'appartiens. Je suis ta femme. Tu as le droit de me rendre des comptes. Tu rentres à la maison. Oh, tu ne parles pas comme ça. Non, on est marre. Tu rentres. Parce que tu es tout le temps dehors. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu fais dehors. Tu fais quoi dehors jusqu'à minuit? D'ailleurs, vous faites quoi dehors jusqu'à minuit, les hommes? Un homme responsable qui est marié et qui a des enfants n'a rien à faire dehors à minuit, si ce n'est peut-être pour quelque chose d'important, et sa femme est au courant. Si la femme n'est pas au courant, alors qu'il est dehors tard comme ça, là, elle ne sait pas où il est, ça veut dire qu'il ment quelque part. Il ment quelque part. Et ça, c'est quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même. Quand tu te tiens devant l'autel et que tu es en train de changer les vœux, là, tu es en train de signer ton arrêt de mort. Tu es en train de dire, devant tout le monde, devant Dieu, devant les anges et devant les hommes, j'arrête de vivre pour moi, je vis maintenant pour cette personne. C'est ça une alliance. Il y avait une secte avant qui existait au Japon qu'on appelait les Yakuza. Quand ils faisaient des alliances, ils se saignaient entre la paume, dans la paume de la main, les deux, ils se saignaient et puis ils se serraient la main. Comme ça, ils se saignaient. Et ils étaient là, ils se serraient avec tout le sang. C'est-à-dire les deux se liaient à vie. C'est connu, vous pouvez trouver ça sur Internet. Et quand il signait une alliance comme ça avec l'autre, c'est-à-dire qu'il décidait de mourir pour lui. C'est-à-dire que cette personne, il ne permettra pas qu'on la touche. Et quand un homme épouse une femme, il vit maintenant pour cette femme. La femme que tu as épousée, tu vis pour elle. Tu ne vis pas pour toi-même.
Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont instables et irresponsables et n'arrivent pas à tenir leur foyer parce qu'ils ne sont pas morts. Beaucoup d'hommes entrent dans le mariage et ils n'ont pas laissé les vieilles habitudes, voire ils n'ont pas quitté leurs parents. Les hommes, laissez vos parents. Laissez vos parents. Tous les hommes, tous les jeunes qui sont ici là, qui m'écoutent, quand vous allez vous marier, vos parents, c'est fini. Vous allez toujours aller les voir, vous les respectez, vous allez de temps en temps rendre visite, mais sachez que vous vivez maintenant pour votre femme. Moi, une fois, j'étais en train de... ma mère était en train de me faire des remarques, et puis j'ai dit non, je suis désolé. Avec tout le respect, tu ne parles pas de ma femme comme ça. Oh, mais toi, tu aimes toujours prendre la part de ta femme. Mais oui, je prends sa part. C'est ma femme. Et puis quoi encore? Oui, non, je suis ta mère. Oui, tu es ma mère, mais maintenant, c'est ma femme. Il faut savoir défendre votre femme. Hein. Ah oui, ne permettez jamais, aussi mauvaise qu'elle soit, ne permets jamais que quelqu'un insulte ta femme. Oh, quand quelqu'un insulte ta femme, c'est toi qui l'insulte. Parce que vous êtes une seule chair. Et quand il dit, mais ta femme, elle ne vaut rien. Il aurait dit, tu ne vaux rien. Celui qui me dit un jour, ta femme ne vaut rien, il ne va rien voir venir. Il y a une gifle sur moi qui va passer. On va dire, oh, le pasteur tape les gens. Si c'est pour ça, je tape. Hein? Non, parce que je suis mort pour elle, elle est morte pour moi. Elle vit pour moi. Je vis pour elle. Et c'est ça l'alliance. Amen. Regardez ce que Dieu dit aux Juifs. Les Juifs faisaient ce qu'ils voulaient. Les Juifs se mariaient, ils divorçaient. Et Dieu leur dit ceci dans Malachie. Il dit, voici encore ce que vous faites. Et là, Dieu adresse cette parole à toute l'Église. Voici encore ce que vous faites, Malachie 2, 13. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Tu as des problèmes à la maison. Tu viens tout le temps pleurer. Oh Dieu, je suis fatigué. Mon mariage ne va pas, etc., etc. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et qui? La femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Tu as signé une alliance avec cette femme-là, et puis tu vas commettre des infidélités dehors. Il y a un frère, il y a quelqu'un, enfin c'est pas un frère, il n'est pas en Christ. Un jeune homme qui est venu chez moi, il y a quelques semaines, je reçois un message sur ma boîte, mon inbox de Facebook, et puis il me dit, voilà, je veux que tu viennes parler parce qu'on est en train de se séparer avec ma femme. Il vient, on discute, et quand il discute, il est tout le temps en train de parler de sa femme. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle me trompe maintenant avec un autre homme. Etc., etc. C'est confirmé, elle sort avec un autre homme. J'ai dit, ok. Si elle sort avec un autre homme, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à la maison. Parce que quand un homme prend soin de sa femme, quand un homme protège sa femme, quand un homme a fermé toutes les portes, le diable ne peut pas entrer. Si Satan a pu séduire Ève, c'est parce que Adam l'avait laissé se distraire. Verrouille ta femme. Tu veux que je te dise comment tu verrouilles ta femme? Tu la bombardes de compliments, de belles paroles et d'amour. D'amour. Je t'aime, bébé. Oh, aucun homme ne peut venir te donner et te faire ce que moi je te donne et je te fais. Ah, aucun homme. Ok. Elle te regarde et dit Ok. C'est moi. Hein? Tellement tu lui dis je t'aime que quand un gigolo va venir un soir lui dire. Tu sais, je t'aime. Oh, tu me fatigues. Lui, il me dit ça déjà fatigué. Il trouve autre chose. Change de CD. Le CD est réel. Quand tu prends soin de ta femme et que tu la couvres d'amour, etc., aucun homme ne peut venir. Aucun. Il peut venir tourner. Elle va l'envoyer balader. Parce qu'elle sait qu'à la maison, elle a un homme. Ah, regardez comment les hommes sourient dans la salle. C'est... Et ensuite, il dit... à laquelle tu es infidèle. Et là, je lui demande, je lui dis, Joe, si elle est infidèle aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je lui dis, écoute, toi-même, tu m'as dit, quand on a commencé cette discussion, je suis venu te voir, parce que c'est ce qu'il disait, je suis venu te voir parce que tu es un homme de Dieu, tout ça. Voilà, la pommade, quoi. Et je lui dis, mais ok, cet homme qui a dit que je suis homme de Dieu, non, dis-moi la vérité. C'est l'homme de Dieu qui te parle maintenant. Dis-moi la vérité. Oui, oui, non, dis-moi la vérité. Pourquoi elle te trompe? Après, je lui regarde dans les yeux, je lui dis, tu l'as déjà trompé? Oui, quand on était fiancés. Quand vous étiez fiancé, tu es sorti avec une autre femme. Oui, c'était une histoire qui a duré, ça a créé des problèmes, tout ça, mais on a réussi à se remettre ensemble et puis on s'est marié. Ah. Et dans le mariage, elle te trompe quand même, dans le mariage. Dis-moi la vérité. En fait, je sors d'une relation avec une femme, tout ça, et puis bon, on a discuté, ça a créé des problèmes, et puis j'ai abandonné la relation. On continue à parler, et au bout d'une demi-heure, je lui dis bon, ok. Il me dit, non, c'est vraiment chaud. Là, elle a vraiment pris la décision de partir. J'ai dit, bon, si elle part, tu fais quoi? Bon, je ne peux pas te mentir. Hein. Tu es mon frère. Je ne peux pas te mentir. Bon, je suis avec quelqu'un encore en ce moment. Je le regarde, j'ai dit, tu es sérieux ce que tu me dis là? Tu viens de me citer 3 adultères là, en moins d'une heure. Hein? Il me dit, non. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Il me dit, mais oh, toi aussi, si on se sépare, il faut bien que je reste avec quelqu'un. J'ai dit, oh, c'est comme ça que tu vois la vie, toi. Et il me dit, bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui si Dieu doit entrer dans mon foyer pour restaurer les choses? J'ai dit, première chose, dès que tu sors de chez moi, là, tu prends ton téléphone et tu appelles cette fille et tu lui dis, c'est terminé. Je ne veux plus venir, je ne veux plus être avec toi, je ne veux plus que tu m'appelles. Je vais dans le contact de mon téléphone, je vais dans modifier, je descends et puis je fais bloquer ce correspondant.
Et supprimer.
J'ai dit, tu fais, il me dit, ah, c'est dur ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est dur? Tu veux que Dieu entre, non? Tu vas apprendre une chose avec Dieu, c'est que lorsqu'il entre dans ton problème, il va venir chambouiller tout le problème. Toi, tu pensais que tu pouvais garder un troisième bureau en cas de roue de secours. Sache que Dieu vient te dire que tu m'arrêtes tes bêtises là. Il a arrêté. Il vient après, hier, le matin, il m'envoie un texto. Oh, c'était un peu dur hier soir, tout ça. J'ai dit, genre... Et quand un homme commet ce genre de choses, et vient demander à Dieu, Seigneur, aide-moi pour pouvoir sauver mon foyer. Dieu dit, tu es infidèle à la compagne de ton alliance et de ta jeunesse. Je ne travaille pas avec des gens qui brisent des alliances. Règle d'abord tes comptes, après on peut discuter. Que tu sois chrétien, que tu ailles à l'église tous les jours, Dieu ne t'aidera jamais. Dieu n'interviendra jamais dans ton mariage si tu as brisé l'alliance par l'infidélité. Les amis, il ne faut pas jouer avec l'adultère. L'adultère, ça détruit. Au Gabon, c'est devenu une norme. En Afrique même en général, c'est normal d'être marié et puis d'avoir 1, 2, 3, c'est la mode. Non, faut arrêter ça. Et même dans l'église. Dernièrement, il y a un pasteur qui me disait que, oh, il y a un autre pasteur ici à Libreville, il a 2 femmes. J'ai dit, mais comment il fait? Oh, parce que lui, il se base sur l'Ancien Testament, qu'on peut avoir plusieurs femmes comme les Abraham et les Isaac. J'ai dit, oh, ça c'est un menteur. C'est Satan qui est sur la chair en train de vous embrouiller. Oui, on ne blague pas avec l'adultère. Et on doit rester fidèle. S'il y a bien une chose avec laquelle Dieu accorde beaucoup d'importance, c'est la fidélité. Les gens fidèles, non seulement fidèles dans leur relation avec Dieu, mais fidèles avec leurs épouses, ce sont des gens que Dieu aime. Ce sont des gens que Dieu aime. Quel que soit les convoitises qui peuvent venir se présenter à toi, quelles que soient les personnes qui peuvent venir, tu dois toujours te souvenir que tu as une alliance avec cette personne-là. Et que si tu brises cette alliance, c'est une porte à de gros problèmes que tu ouvres dans ta maison. Amen. On va s'arrêter là. Demain, on va atterrir. Demain, on verra les obligations des époux dans l'alliance. Les obligations d'alliance entre les époux. Ce que l'homme doit faire dans le mariage en tant qu'homme et ce que la femme doit faire dans le mariage en tant qu'homme. Le rôle de l'homme dans le mariage et le rôle de la femme. La place de la femme dans la maison et la place de l'homme dans le foyer. Si chacun, en tant qu'épouse et en tant que mari, si on reste à sa place, on respecte l'alliance et on reste à sa place, je vous assure, on ne peut qu'attirer la bénédiction sur notre vie. La femme... Tu ne comprends pas pourquoi l'homme, tu as toujours autant de problèmes avec lui. Même s'il est non-croyant, reste à ta place de femme. La Bible dit, femme, soyez soumise. Reste soumise. Parce que la soumission, c'est une puissance. Tu ne sais pas. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est être sous la mission et sous l'autorité de ton époux. Parce qu'il a une mission, il a un mandat. Et tu te mets sous ce mandat pour cheminer avec lui. Si tu restes dans la soumission, je t'assure, aussi non croyant qu'il est, il va revenir au Seigneur tôt ou tard. Tu pries pour lui. La nuit, quand il dort et qu'il est là à la bouche ouverte, tu lui imposes les mains sur la tête au nom de Jésus. Toi, tu vas donner ta vie à Jésus. Et puis de temps en temps, quand il est à la maison, il est de bonne humeur, tu lances. Tu sais, bébé, toi un jour, je sais que tu vas servir le Seigneur. Oh, laisse-moi tes histoires là. Depuis que tu vas à l'église, là, tu deviens un peu zinzin. Hein. Je t'ai dit, hein, tu vas servir le Seigneur. Tu seras même pasteur. Oh, arrête, tu commences à m'énerver avec ton histoire. Hein. Tu seras pasteur, je te dis. Tu seras pasteur, je te dis. Si je suis enfant de Dieu, hein, rempli du Saint-Esprit, je prophétise que tu seras pasteur, toi. Il va te regarder, il va avoir peur de toi. Gloire à Dieu. Donc demain, on verra un peu en détail le rôle de chacun et je pense que Dieu nous fera grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur simplement? Oh oui. L'alliance, n'oublions jamais cela. On va revenir là-dessus encore dans les prochains mois, etc. On va tout le temps revenir là-dessus, mais n'oublions jamais ça. On va incliner la tête. Non, je voudrais qu'on se lève, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on se lève. Seigneur, merci. Je voudrais que les femmes répètent après moi. Je ne sais combien. Je voudrais que les femmes répètent après moi. Père, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité. Qui libère. Merci pour ta parole. Qui éclaire et donne de l'intelligence. Seigneur, il y a tant de choses que je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, tu m'ouvres les yeux. Merci parce que tu me fais comprendre l'importance et la profondeur de l'alliance. Merci parce que tu m'accordes maintenant la grâce de rester enraciné dans l'alliance que j'ai avec Christ. Et en tant qu'épouse, tu m'accordes la grâce de rester dans l'alliance que j'aurai et où que j'ai avec mon conjoint. Seigneur, merci pour ta faveur, ta grâce et ta bénédiction dans ma vie. Merci pour les droits d'alliance que j'ai en Christ. Aucune stérilité, aucune malédiction. Aucun blocage, aucune malédiction, Seigneur, sur mon foyer n'aura d'effet. Car je suis béni de la bénédiction de Christ qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais que les hommes maintenant répètent avec moi. Père Céleste, merci. Merci pour ta parole qui éclaire et donne de l'intelligence. Merci Seigneur pour cette vérité qui me libère et qui me fait comprendre, Seigneur, mon rôle et ma place dans mon foyer. Merci parce que tu fais de moi, Seigneur, le chef du foyer. Aide-moi à comprendre cette responsabilité et à l'assumer, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'épouse que tu mets à mes côtés. Cette aide semblable qui m'aidera à atteindre ma destinée en Christ et à exercer mon autorité et la domination sur la terre. Aide-moi, Seigneur, à l'aimer. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à la protéger. Et aide-moi à faire d'elle la femme de valeur, Seigneur, que tu veux qu'elle soit. Je déclare au nom de Jésus que tous les mensonges du diable n'atteignent pas mon foyer. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Appuyez sur la louange de l'adoration. Merci encore pour tes paroles au moment. Merci pour ta parole, Père. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.